17h au studio Kalangou. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information de ce vendredi 10 juin 2022. Au sommaire, l'ambassade de France au Niger a organisé ce vendredi 10 juin dans ses locaux une journée porte ouverte consacrée au métier de la sécurité intérieure. Les précisions sont à suivre dans ce journal. Les comités exécutifs des étudiants des universités de Maradi, Zender et Tawa dénoncent les bagarres dans certaines universités ces derniers temps. Le secrétaire général adjoint du comité exécutif de l'université de Maradi explique dans cette édition. Le magazine de ce journal nous amène de la région de Diffa où les femmes s'adonnent à la confection des bonnets. Nafis Adam Sirfo au micro. Pour le Hajj 2022, les autorités saoudiennes ont autorisé 10 vaccins contre la COVID-19 pour les pèlerins, selon un communiqué du Haut Commissariat à l'organisation du Hajj et la Omra Koho du Niger en date du 9 juin. Il s'agit du Pfizer Biotech, le Moderna, le Johnson Covovax, l'AstraZeneca, le Nuvaxovid, le Sinopharm, le Sinovac, le Covaxin et le Sputnik V. Cependant, le Koho conseille à tous les candidats au Hajj d'opter pour le vaccin Johnson qui se procure en dose unique compte tenu du temps qui reste pour le départ. Je vous le disais dans les titres, l'ambassade de France au Niger a initié ce vendredi 10 juin dans ses locaux une journée porte ouverte consacrée au métier de la sécurité intérieure. Plusieurs ateliers ont été organisés par les différentes missions de la police, la gendarmerie, la garde nationale et la protection civile. Les détails dans ce reportage signé Rabia Mekano.
Initiée par l'ambassade de France au Niger, la journée porte ouverte sur les métiers de la sécurité intérieure est destinée aux étudiants de la faculté Paix, Sécurité et Carrière Internationale de l'Université Abdou Moumouni de Niamey. Alexandre Garcia, ambassadeur de France au Niger.
Si on voulait valoriser cette dimension internationale de la sécurité intérieure, vous voyez, donc à l'origine, on pense, quand on pense aux gendarmes, aux policiers, à la garde nationale, on pense au territoire national. Ces formes de criminalité, de délinquance ont des dimensions presque tout le temps transnationales, donc qui impliquent des coopérations opérationnelles avec les voisins, les pays voisins, c'est ce que fait déjà le Niger, mais aussi avec des voisins plus lointains, européens ou autres partenaires, pour lutter plus efficacement contre cette forme de criminalité.
Plusieurs ateliers ont été présentés au public. La présentation d'un drone du service central de lutte contre le terrorisme équipé par la garde nationale et les techniques d'intervention de la gendarmerie nationale. La réaction des étudiants.
Ça demande vraiment beaucoup de moyens à la sécurité. Parce que les drones qu'on nous a présentés coûtent très cher et ne peuvent pas couvrir tout le pays. Donc on comprend maintenant pourquoi des fois il y a des attaques et qu'on n'arrive pas à appréhender les terroristes et autres.
On a pu voir comment est-ce que la drogue elle est transformée, comment est-ce que ça se passe en cas de... Je vais prendre un exemple d'incendie, comment est-ce qu'il faut sauver des victimes. Nous savons que nous sommes dans un contexte de crise, ça peut nous aider.
Les initiateurs ont félicité les professionnels de la sécurité intérieure pour leur professionnalisme et le respect des droits humains lors de leurs opérations.
Parlons éducation à présent. Ce jour à 10 juin à Arlit, une rencontre a eu lieu entre acteurs partenaires de l'école et les autorités administratives et municipales. Il a été surtout question de la recrudescence de la violence en milieu scolaire et autres attaques ciblées contre certains responsables du ministère de l'Éducation nationale sur les réseaux sociaux. Maouli Abdrahmane, maire d'Arlit, est au micro d'Ousmane Oumarou.
Arlit, même s'il n'y a pas les violences physiques, peut-être il ne peut y avoir que des violences morales, ça peut exister. Mais les phénomènes tels que nous les décrivons, tels que nous les vivons, il n'est pas à Arlit. Et s'il n'est pas à Arlit, j'ai rendu vraiment grâce à Dieu. Dieu le miséricordieux, le tout puissant, de nous avoir permis d'avoir cette stabilité. Mais sans oublier les grands acteurs, les acteurs principaux, qui vont des parents d'élèves, des syndicats des enseignants, des élèves eux-mêmes, et de toute la préoccupation que nous discutons jour et nuit. Et s'il y a eu des problèmes à l'intérieur, c'est que quelque part, il y a eu défaillance. Donc notre objectif aujourd'hui, ce n'est pas de se déverser dans un débat stérile, mais faire des propositions pour améliorer déjà ce que nous sommes. Parce que moi, j'ai dit qu'Arlit, il faut juste améliorer. Et c'est des propositions comme ça que nous allons développer entre nous, pour vraiment parfaire un peu notre gestion au niveau donc, de la commune d'Arlit.
Les bagarres dans les universités ces derniers temps sont une préoccupation pour l'Union des scolaires nigériens, ont déclaré hier les comités exécutifs des étudiants des universités de Maradi, Zender et Tawa dans une déclaration à Maradi. Ils ont également fustigé le silence du gouvernement par rapport à la satisfaction de leurs revendications. Halidou Issa Abdrahman, secrétaire général adjoint du comité exécutif de l'Université de Maradi, est au micro de Mohamed Maman.
Nous sommes au 9e mois de l'année et jusqu'à preuve du contraire, les revendications de septembre ne sont pas jusque-là satisfaites. Raison pour laquelle les trois sections se sont réunies pour rendre publique une déclaration. Nous avons dans un premier temps fustigé la politique du gouvernement sur la sécurité, la politique du gouvernement sur l'éducation nigérienne et le silence du gouvernement vis-à-vis des revendications de l'ESN en général et de ces trois sections en particulier. Nous avons fustigé le manque d'éducation familiale bien sûr au niveau des camarades scolaires et aussi le manque de suivi des parents de leurs enfants au niveau des écoles. Nous allons appeler le gouvernement à prendre conscience de la situation qui est en train de prendre l'ampleur. Pour que l'école nigérienne retrouve ses lettres de noblesse, nous l'avons dit, il faut que le gouvernement, tous les acteurs, les syndicats, les parents d'élèves, les scolaires, s'assoient sur une table de pourparlers.
Hier, à l'occasion de son déplacement à Téra, le président de la République, Mohamed Bazoum, a fait escale à Gerbekourou, un village du département de Gotey qui accueille en ce moment près de 1200 personnes déplacées. Le directeur de l'école du village a procédé au recensement des enfants des déplacés scolarisables en vue de leur recrutement à la rentrée prochaine. Amadou Oudou est au micro de Asmane China.
Ceux qui viennent d'arriver, on a pris le nom de tous ceux qui sont scolarisables, c'est-à-dire les enfants d'âge scolaire entre 6, 7 ou 8 ans. Donc, s'ils n'ont pas quitté et que à la rentrée prochaine, ils sont toujours là, on va recruter ces enfants-là. Ils sont en grand nombre vraiment. J'ai pris 68 à mon niveau, des garçons comme des filles. Puisqu'ils disent que ça fait 5 ans qu'ils ne fréquentent pas. Donc, bon nombre sont déjà mariés. Donc on a préféré nous appuyer sur les petits, les 6, 7, 8 ans.
En région, toujours plus de 90 enfants mineurs refoulés de l'Algérie sont arrivés hier à Zender. Ces enfants sont ressortissants des départements de Kanché et Magaria, selon le responsable régional de la protection de la femme et de la protection de l'enfant. Ces enfants mineurs non accompagnés seront rapatriés chez eux, a indiqué Malom Oumar de la direction régionale de la protection de l'enfant de Zender. Il est au micro de Mariam Nouhou.
Il nous a été amené 92 enfants. Ces enfants sont originaires du département de Matamei, principalement de Kanché, et d'autres sont du département de Magaria. Ces enfants sont en provenance d'Agadez. Maintenant, nous allons travailler au sens de leur garantir les droits de l'enfant. Nous allons identifier leur village, rechercher leurs parents afin de les rapatrier chacun dans son village. Nous allons également poursuivre la surveillance de leurs droits dans leur famille, sensibiliser les parents sur cet état de fait dans lequel les enfants sont enrôlés pour aller vers la migration, qui n'est pas bon pour eux, car cela peut les entraîner dans une posture d'une situation inhumaine, ce que nous ne souhaitons pas.
Le candidat au deuxième tour de l'élection présidentielle du 21 février 2021 au Niger, Mahamane Ousmane du RDR Tchandji, a pris acte du délibéré de la Cour de justice de la CEDEAO du 31 mai sur le contentieux électoral qui l'opposait à l'État du Niger. Il l'a dit hier lors d'un point de presse à Niamey. Pour rappel, la Cour de justice a débouté Mahamane Ousmane. Un extrait de son point de presse recueilli par Maman Adam.
Je prends acte de ce délibéré de notre cour communautaire en attendant de recevoir l'arrêt. J'ai une pensée particulière à l'endroit de tous ces nombreux leaders des partis politiques, leaders des organisations de la société civile et d'autres citoyens, parmi lesquels des leaders d'opinion injustement gardés en prison, dont son Excellence M. Hama Amadou et le général à la retraite Moumouni Bourayma, entre autres. Certains pour avoir simplement exprimé leurs opinions et des centaines d'autres pour avoir simplement exprimé leurs opinions pour exiger le respect des résultats sous le sceau de ceux délibérés. Relativement au droit à la liberté d'expression, leur détention est tout simplement illégale. Et j'exige par conséquent la libération immédiate et sans condition de tous ces prisonniers politiques et d'opinion.
La suite de ce journal, la rareté du gasoil persiste au Niger depuis plus de 10 jours. Cela est dû à une très grande convoitise du produit par les pays frontaliers et ceux de la sous-région, a déclaré Bio Abdrahman, le chargé de communication de la Société nigérienne des produits pétroliers. Seulement, selon lui, les dispositions sont prises pour le retour à une situation normale. Il est au micro de Rafika Taher.
En ce qui concerne le gasoil, le super, depuis un certain temps justement, notre produit destiné à la consommation locale a fait l'objet d'une très grande convoitise des pays frontaliers de la sous-région. En dehors de ça, Sorel a connu un déficit de produits du fait de la lenteur du camion par rapport au chargement. À la date d'hier, nous avons à peu près 70 citernes en cours de route qui ne sont pas arrivées. Les délais, les dispositions qui ont été prises. D'abord, nous avons créé un système de motivation des chauffeurs. Les gens qui font l'export de façon frauduleuse, tout celui qu'on ramasse en train de faire cette activité illégale, qu'il va faire en tout cas à la loi. Au niveau des stations de service, au-delà d'un certain volume, en dehors de l'autorisation expresse des autorités compétentes, ne doivent plus vendre de façon anormale.
Le Niger participe à la 56e session des organes subsidiaires sur le climat qui se tient du 6 au 16 juin à Bonn, en Allemagne. Environ 200 pays prennent part à cette rencontre sur le climat pour donner un élan à la COP27 qui est prévue en novembre prochain en Égypte. Ces sessions se focalisent sur l'adaptation, le financement sur le climat et surtout les pertes et préjudices, explique Sani Ayuba, un des représentants nigériens.
Nous sommes ici à Bonn dans le cadre de notre collaboration avec certains partenaires qui sont également là pour essayer de pousser l'agenda pour la prise en compte des pertes et préjudices, la question de la jeunesse, la question du genre aussi. Donc nous essayons à travers notre participation aux différents side events et autres événements en amont pour que les négociateurs puissent considérer l'ensemble de ces aspects. L'Égypte est là aussi qui assure la présidence de la COP pour aussi prendre en compte les besoins d'inspiration de l'ensemble des parties prenantes pour que la COP d'Égypte en novembre prochain soit vraiment une véritable COP de mise en œuvre, mais une COP aussi qui permettra de renforcer les actions visant à lutter globalement contre les émissions de gaz à effet de serre et renforcer la résilience des communautés dans les pays qui en dépendent.
Le magazine de ce journal, la confection des bonnets de la région de Diffa, est une activité pratiquée aussi par les femmes. Elle leur permet de subvenir à leurs besoins. Notre correspondant a rencontré Falmata Ali qui explique comment elle confectionne ses bonnets richement brodés et accessibles selon ses bourses. Elle est au micro de Gidi Abdrahman.
Je confectionne des bonnets. Il y a 3 sortes de bonnets. Il y a celui qu'on appelle Kindé, c'est celui qui coûte cher. Il y a aussi celui aux 51 yeux. Lui, il vient de Borno. Et il y a celui qu'on appelle Bongol. Oui, je confectionne des bonnets pour hommes. Il y a le Kindé, comme je le disais, qui coûte cher. Et ça se vend à 25 000, voire 26 000 l'unité. Le Bongol, lui, quand tu le confectionnes très bien, tu peux le vendre à 10 000 ou même en dessin. Mais celui de Borno, c'est le moins cher. C'est celui qui, une fois confectionné, se vend à 5 000 ou 4 000. Parfois, avant même de terminer la confection d'un bonnet, il y en a qui viennent réserver à l'avance. Ils nous demandent au préalable de déposer pour eux. Et parfois, on trouve l'acheteur dès qu'on l'expose au marché.
Combien d'employés travaillent avec vous?
Nous sommes au nombre de 5 ou même 6. La plupart, ce sont des femmes. Il y a des hommes, mais les femmes sont quand même plus nombreuses, puisqu'elles n'ont pas une activité fixe. Une fois la confection terminée, les hommes, eux, s'occupent de laver et d'arranger les bonnets. La confection de celui qui coûte cher là, dont je vous disais, peut prendre 1 mois. Le moins cher lui prend 2 semaines ou même 10 jours quand on s'y met. Tout dépend de la façon de faire du confectionneur. Si j'ai bénéficié une fois d'un appui, j'ai eu un fonds que j'ai utilisé pour apprendre à d'autres la confection des bonnets.
Quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans ce métier?
Nous n'avons aucun problème, tout va bien, sauf quand on n'a pas les moyens. Moi, je n'achète rien ici, je me ravitaille à Maïdougouri. C'est bien de pratiquer un métier, une activité manuelle, donc il faut l'apprendre. Il faut que les femmes et les jeunes s'y mettent, mais parmi les femmes, il y en a qui veulent et d'autres non. Il y en a qui se plaignent tout le temps sur le temps de la couture à la main, les aiguilles et bien d'autres. Mais c'est mon métier, moi je m'y connais. C'est très difficile la confection, il n'y a aucun métier facile. Il faut souffrir pour gagner honnêtement son pain.
Fin de ce journal, merci de votre attention.